Chapitre 29. Le problème était tout simple, pensa Jake. Quelque part dans cette horrible ruine puante se trouvait une porte fermée. La bonne porte. Il lui suffisait de la trouver. Mais c'était difficile car il sentait une présence matérialisée dans la maison. La cacophonie de voix commençait à se fondre en un unique son, un sourd murmure rauque. Et cela s'approchait. Il y avait une porte ouverte sur sa droite. À côté d'elle, punaisé au mur, un daguerréotype jauni représentant un homme pendu à un arbre mort comme un fruit pourri. Derrière la porte, une pièce qui avait sans doute été jadis une cuisine. Le poêle avait disparu, mais une antique glacière, le modèle surmonté d'un tonnelet frigorifique, trônait encore sur le linoléum gondolé. Sa porte était béante. Une matière noire s'était coagulée sur ses étagères, formant une épaisse flaque au dernier niveau. Les placards de la cuisine étaient grands ouverts. Il vit dans l'un d'eux ce qui était sans doute la plus vieille boîte de grappes du monde. La tête d'un rat mort dépassait d'un autre placard. Ses yeux blancs semblaient mobiles, et Jake comprit au bout de quelques instants que ses orbites étaient remplies de verre grouillant. Quelque chose tomba dans ses cheveux avec un bruit mat. Il poussa un cri de surprise, leva une main et saisit un objet qui évoquait une balle molle et couverte de poils. Il le dégagea et vit qu'il s'agissait d'une araignée dont le corps bouffi avait la couleur d'un hématome. Elle le regarda de ses yeux stupides et maléfiques. Jake la jeta contre le mur. Elle explosa et glissa jusqu'au plancher, agitant faiblement les pattes. Une deuxième araignée chut sur sa nuque. Jake sentit une morsure douloureuse à la naissance de ses cheveux. Il recula en courant jusqu'à l'entrée, trébucha sur les débris de la rambarde, tomba par terre et sentit l'araignée crever sous son poids. Ses entrailles, humides, poisseuses et grouillantes, coulèrent entre ses omoplates comme du jaune d'œuf chaud. Il aperçut d'autres araignées sur le seuil de la cuisine. Certaines étaient suspendues à leur fil invisible comme d'obscènes boules de Noël. D'autres s'étaient laissées tomber sur le sol avec un bruit mou et trottinaient impatiemment dans sa direction. Jake se releva d'un bond sans cesser de hurler. Il sentit dans son esprit quelque chose qui ressemblait à une corde tendue et qui commençait à se rompre. Il supposa que c'était sa raison, et c'est à ce moment-là que son courage considérable finit par le trahir. Il ne pouvait plus supporter cette quête, quel qu'en fût l'enjeu. Il se mit à courir, bien décidé à s'enfuir, si c'était encore possible, et s'aperçut trop tard qu'il s'était trompé de direction et s'enfonçait dans le manoir, au lieu de se diriger vers la véranda. Il s'engouffra dans une pièce trop vaste pour être un salon ou une salle de séjour. Elle ressemblait à une salle de bal. Des lutins à l'étrange sourire cruel gambadaient sur la tapisserie, le fixant de leurs yeux vicieux sous leur bonnet vert. Un canapé couvert de moisissures était poussé contre le mur. Au centre du parquet gondolé gisait un lustre en pièces, sa chaîne rouillée serpentant parmi les perles et les pendeloques couvertes de poussière. Jake contourna l'obstacle, jetant un regard terrifié par-dessus son épaule. Il ne vit aucune araignée. Si son dos n'avait pas encore été couvert de cet horrible fluide, il aurait pu croire qu'il avait imaginé leur présence. Il se retourna et fit halte, stupéfait. Devant lui, une porte-fenêtre coulissante entrebâillée. Plus loin, un nouveau couloir. Au bout de ce couloir, une porte fermée au bouton doré. Sur cette porte était écrit, ou peut-être gravé, deux mots. Le garçon. Sous le bouton de porte, il y avait une plaque d'argent et un trou de serrure. « Je l'ai trouvé !» s'exclama mentalement Jake. « Je l'ai enfin trouvé ! C'est elle ! C'est la porte !» Derrière lui monta un sourd grognement, comme si la maison commençait à se déchirer. Jake se retourna vers la salle de bal. Le mur du fond était en train de se gonfler, poussant devant lui l'antique canapé. La tapisserie frémit. Les lutins se mirent à danser la gigue. Ça et là, le papier se déchirait et s'enroulait vers le haut, tel un store vénitien fermé trop brusquement. La surface de plâtre saillait comme le ventre d'une femme enceinte. Jake entendit une série de craquements lorsque les lattes de la cloison se brisèrent, se rassemblant pour façonner une forme encore invisible. Et le bruit gagnait en intensité. Mais ce n'était plus exactement un grognement. On aurait davantage dit un grondement. Il contempla la scène, hypnotisé, incapable de détourner les yeux. Contrairement à son attente, le plâtre ne se craquela pas pour vomir ses fragments sur le plancher. Il semblait être devenu malléable, et à mesure que le mur continuait d'enfler, formant une grosse boule irrégulière sur laquelle pendaient encore des lambeaux de tapisserie, sa surface commença à se façonner en collines et en vallons. Soudain, Jake s'aperçut qu'il avait sous les yeux un immense visage mouvant qui émergeait du mur, comme celui d'un homme masqué par un drap mouillé. On entendit un craquement sec et un bout de latte jaillit du mur ondoyant. Il devint la pupille longiligne d'un œil. Plus bas, le mur s'ouvrit sur une bouche ricanante aux crocs acérés. Jake vit des bouts de tapisserie pendre à ses lèvres et à ses gencives. Une main de plâtre s'extirpa du mur, traînant derrière elle un bracelet de fil électrique pourri. Elle saisit le canapé et l'écarta violemment, laissant sur son tissu sombre des empreintes d'un blanc spectral. De nouvelles lattes jaillirent lorsque les doigts de plâtre s'agitèrent. Elles formèrent des griffes plantées des chardes. Le visage s'était à présent dégagé du mur et fixait Jake de son œil de bois. Un lutin de papier dansait encore sur son front. On aurait dit un tatouage excentrique. Il y eut un grincement visqueux lorsque la créature commença à ramper. La porte donnant sur l'entrée sortit de ses gonds pour devenir une épaule difforme. La main de la créature racla le plancher, éparpillant les débris du lustre. Jake retrouva ses esprits. Il fit demi-tour, s'engouffra par la porte-fenêtre et fonça dans le second couloir, son sac battant sur son dos et sa main droite plongeant dans sa poche à la recherche de la clé. Son cœur battait comme une usine aux machines déréglées. Derrière lui, la chose qui était sortie des boiseries du manoir poussa un beuglement, et bien qu'il n'ait pu distinguer ses paroles, Jake savait ce qu'elle disait. Elle lui disait d'arrêter, elle lui disait qu'il était inutile de fuir, elle lui disait qu'il n'y avait aucune issue. La maison tout entière semblait douée de vie. L'air résonnait des cris du parquet et du fracas des poutres. La voix folle du gardien de la porte était omniprésente. Les doigts de Jake se refermèrent sur la clé. Lorsqu'il la sortit de sa poche, une de ses encoches accrocha l'étoffe de son pantalon. La clé glissa de ses doigts poisseux de sueur. Elle tomba sur le parquet, rebondit, retomba entre deux planches gondolées et disparut.